13h, 14h, vous êtes où cet été ? Sébastien Krebs sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi pour vous emmener en balade jusqu'à 14h. Vous le savez, chaque samedi, nous sommes à vos côtés dans les régions de vos vacances que nous explorons avec les reporters d'Europe 1 à la découverte de leurs trésors cachés, de leur caractère, de leur village, de leur plage, de leur patrimoine et de leur gastronomie. Alors après la Côte d'Azur, après la Bretagne, le Pays Basque, les Pyrénées, direction cette semaine, les Côtes de la Manche, la Normandie, le Cotentin. Petit avant-goût, sachez qu'au programme, il y a des huîtres, du homard, des châteaux de sable et même le village préféré des Français. Bienvenue.
Tous les samedis, 13h, 14h,
vous êtes où cet été ?
Bonjour Justin Morin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
C'est vous qui avez arpenté ces côtes de la Manche tout au long de la semaine. Vous nous avez fait vivre vos aventures au quotidien dans la matinale d'Europe 1. On va aller revivre étape par étape. Après ces 5 jours, vous êtes conquis ?
Oh ben oui, forcément, hein. Malgré quelques gouttes de pluie, il faut le dire. Hein. Voilà, la Normandie reste la Normandie, mais je suis normand, donc j'étais déjà un peu conquis, il faut le dire.
Vous étiez déjà le régional de l'étape. Allez, on va commencer par la première étape du voyage et on débute par un voyage dans le temps. Reportage.
Avranches, juillet 1944. Les Alliés ont débarqué depuis plus d'un mois sur les côtes normandes. Les bombardements ont rasé plusieurs quartiers, mais les Allemands tiennent encore cette ville stratégique sur la route des Américains vers la Bretagne. Ils veulent absolument s'en emparer. C'est l'opération Cobra. Alors dans la rue principale, les soldats du 3e Reich sont prêts, allongés derrière leurs mitraillettes, planqués derrière les tanks ou dissimulés derrière les fenêtres. Attention, les Américains arrivent.
C'est les Allemands qui ont tiré les premiers.
Oh, bah, ils sont mélangés.
Comment ? Les Américains là-bas ?
La bataille a commencé.
Ouais, on s'y croirait presque quand vous dites que vous nous emmenez dans le passé.
Et oui, Avranches vient de fêter les 75 ans de sa libération avec, clou du spectacle, une reconstitution grandeur nature de la libération de la ville, une centaine d'acteurs en tenue, une trentaine de véhicules d'époque, dont des blindés en plein centre-ville. Alors on avait été prévenus, hein, mais les trois quarts des spectateurs se sont bouchés les oreilles. Pendant une demi-heure, ça court, ça crie, ça tire et ça meurt dans tous les sens. C'est assourdissant, alors j'ai quand même tenté une interview dans le feu de l'action, sans grand succès.
C'est impressionnant, comment on se fait pour... pas vrai, donc...
On s'entend pas parler.
Trop de bruit. Oh,
Voilà, alors, je vous l'ai fait courte, hein, la représentation a duré une demi-heure, c'était assez impressionnant. Premier débrief avec Rémi, éducateur dans la vie et membre de la 30e division d'infanterie d'américaine, le week-end.
On a bien défouraillé là, c'était assez intense. C'est vrai qu'ils nous ont tenus en haleine les Allemands, donc il n'a pas fallu se laisser faire.
Qu'est-ce qui vous plaît tant alors dans ces reconstitutions de participer à ça ?
Bah, tester le matériel, dormir sur le sol, avoir froid, avoir faim, avoir mal. Voilà, on est un peu sadomaso. Non, je plaisante. Non, mais voilà, c'est de se remettre dans le contexte et de revivre ce qu'ont duré les types, quoi. C'est juste dingue.
Est-ce que vous pourriez jouer en Allemand ?
J'ai essayé de porter l'uniforme, mais c'est vrai que j'étais pas forcément à l'aise.
C'est assez surprenant d'entendre ça aujourd'hui, Justin.
Oui, mais il a répondu avec le sourire, mais c'était vraiment sincère. En fait, ce que m'a expliqué Rémi, c'est le témoignage de ses grands-parents qui, eux, ont vécu la guerre, leurs difficultés. Et en fait, parmi tous les figurants que j'ai interviewés et qui sont venus exprès d'Angleterre, d'Allemagne, des Pays-Bas et même des États-Unis par le biais d'associations de passionnés, à chaque fois, ils m'ont parlé de leurs aïeux, acteurs, victimes, témoins de la guerre. On sent que c'est une corde très sensible qui résonne aussi chez les spectateurs. Bernadette, elle, en a les larmes aux yeux.
Mon papa avait la guerre.
Il souffrait de la faim. Quand il me disait qu'il déracinait des arbres, il faisait des choses pour manger, mon Dieu.
On doit bien accorder un peu de temps à tous ceux qui ont donné leur temps et leur vie pour sauver justement la France. Donc je trouve que c'est un rassemblement merveilleux.
Et puis dans la foule, il y a ce vieil homme qui porte des bretelles, il boite, marche avec une béquille. Il est resté très longtemps à discuter avec les figurants. J'apprends qu'il s'appelle Paul Leplat, qu'il a 94 ans et qu'il est un ancien résistant. Et cette journée, il la vit différemment parce que lui, il a vécu la guerre.
Bon, alors, pour moi, c'est du cinéma. Seulement, c'est du cinéma où les gens se sont appliqués à jouer leur rôle. ces touristes allemands qui sont les bienvenus aujourd'hui se sont scrupuleusement appliqués à mitrailler. Et à... Les Américains ont fait pareil. Et puis ça va se terminer par des ripailles et vive la vie. C'est ça qui est merveilleux, car nous sommes dans une époque merveilleuse. Bien qu'il y ait beaucoup de misère, qu'il y ait des menaces sur l'avenir, il faut qu'on profite au maximum de ce temps-ci, parce qu'il n'est pas dit qu'il dure indéfiniment.
Voilà, que dire de plus à part l'importance de ce exactement l'importance de ce tourisme mémoriel très implanté dans cette partie de la Normandie. Au final, l'objectif de toutes ces célébrations du 75e anniversaire de la libération, de toutes ces reconstitutions, c'est bien de ne jamais oublier.
Voilà, Avranches qui célèbre donc par cette reconstitution les 75 ans de sa libération. Il est formidable ce vétéran que vous avez rencontré, Justin.
Oui, et vraiment, il fallait le voir. Il était accoudé à une Jeep où il y avait des figurants à l'intérieur. Et il parlait. On sent bien qu'il avait beaucoup de choses à raconter. Et surtout, il a cette diction, cette manière de parler qui est aujourd'hui assez rare, hein, moi je trouve. C'est ça qui était vraiment intéressant, c'est qu'on écoute ses paroles. On est là, on l'écoute avec les yeux grands ouverts. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir rencontrer ce genre de personnalité aujourd'hui.
Dites-moi, vous aviez prévu quand même les bouchons d'oreilles parce que ça avait l'air de bien bien pétarader dans le village.
Ouais, ça c'était vraiment impressionnant. Surtout, ce qui est marrant, c'est que je pense que les gens eux-mêmes qui étaient là, les spectateurs, ne s'y attendaient pas vraiment. Et donc en fait, il y avait énormément de gens qui étaient venus avec leurs enfants et tout le monde avait les doigts dans les oreilles pour éviter que ça fasse trop de bruit. Il y avait des petits bébés qui pleuraient. Bon, du coup, les familles se sont vite éloignées. Mais c'est vraiment impressionnant. Et puis, il faut vraiment dire que les figurants, ils y vont. Hein. Ils font pas semblant. Quand ils meurent, ils crient. Ils se roulent par terre, c'est vraiment une vraie reconstitution de bataille.
Mais alors, vous restez avec nous dans un instant, on va justement passer un coup de fil au maire d'Avranches, David Nicolas, et on parlera avec lui de ce tourisme mémoriel. A tout de suite.
Europe 1, vous êtes tous cet été.
Bon début d'après-midi, merci d'avoir choisi Europe 1. Vous êtes tout cet été, c'est jusqu'à 14h. Après la Côte d'Azur, les Pays Basques, la Bretagne ou encore les Pyrénées, aujourd'hui il est temps de découvrir les Côtes de la Manche avec Sébastien Krebs.
Et nous continuons ce voyage sur les Côtes de la Manche. Nous sommes à Avranches qui commémore les 75 ans de sa libération. Vous avez entendu le reportage de Justin Morin et on est en ligne avec le maire de la commune toute voisine. Bonjour Alain Brière.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Julouville.
Exactement.
C'est juste à côté d'Avranches. Donc vous aussi, vous commémorez cette libération il y a 75 ans.
Il y a 75 ans, les Américains sont arrivés le 31 juillet à Julouville. Et le 24 août, le général Eisenhower, qui commandait toutes les forces alliées pour libérer l'Europe, a installé pendant près de deux mois, son quartier général. Et c'est oublié. Et on veut profiter de ces 75e anniversaire de la bataille de Normandie pour rappeler à toute la population que le Sud-Manche a été très touché par, les opérations militaires de libération de l'Europe.
Et alors, vous le dites, c'est oublié. C'est vrai qu'on a énormément parlé des commémorations du 6 juin, le débarquement. Mais ensuite, il y a quand même toute la libération de la région. Ça a duré tout l'été. Et c'est important, Avranches et ce secteur, ça a été particulièrement important pour les Américains.
C'était particulièrement important parce que c'était une bataille difficile, c'était la bataille des haies. Chaque chemin devait être pris progressivement contre l'ennemi, contre les Allemands. Et donc, il y a eu la bataille de Mortain, la percée d'Avranches, tout ça piloté par le général Patton, donc qui recevait ses ordres de Julouville du général à Genever. Hein. Et d'ailleurs, le général Patton a habité dans une maison tout près de la mairie, a habité à Julouville.
Donc, l'histoire s'est jouée dans ces petits villages et ça a permis cette percée d'Avranches d'accéder aussi et d'aller libérer ensuite la Bretagne.
Bien sûr, la Bretagne d'une part, et puis en même temps, c'est d'ici aussi de Julouville que Leclerc est parti libérer Paris.
D'accord, donc
des discussions importantes avec le général de Gaulle.
Alors on entendait un vétéran dans le reportage dire toute l'importance du tourisme mémoriel pour se souvenir de cette période. Vous recevez beaucoup de touristes en ce moment liés à cet anniversaire?
Écoutez, nous, pendant cette période de festivités que nous avons organisée progressivement hein, sur la commune, si je fais fait la somme de tout, il y a plus de 250 000 personnes qui sont venues, qui ont participé à ces événements, moi j'ai senti beaucoup de ferveur. Je dirais autour de ce respect, autour de ces valeurs essentielles que sont la liberté, la paix, et puis l'Europe, parce que c'est en même temps c'est l'événement demain. J'ai une communion importante de toute la population et ça fait chaud au cœur. Et tous les jours, je reçois des remerciements de la population qui me disent merci, merci beaucoup.
Il y avait des Américains, il y avait des Allemands aussi.
Il y avait des Américains, il y avait des Allemands, il y avait, j'étais Suisse, il y avait enfin, pas mal de gens qui étaient venus, je dirais, voir nos festivités. C'est assez émouvant, assez poignant.
Et vous avez notamment organisé un meeting aérien, c'est ça, le week-end dernier.
Oui, nous avons organisé alors un meeting aérien, puisque on a commencé crescendo, et ce meeting aérien avait plein de valeurs, puisque le clou du meeting aérien a été... D'abord, l'A400M, l'avion militaire, qui est passé, qui a fait son show. Et ensuite est arrivé l'Airbus A380, donc c'est l'Europe,
bah oui, bien sûr,
qui a survolé le Mont-Saint-Michel et qui a attendu la patrouille de France. Et donc, l'Airbus A380 avec la patrouille de France, avec le Mont-Saint-Michel, ça donne une image extrêmement plein de valeurs, plein de symboles. Et toute la population a été émerveillée par ce show, par ces symboles.
Effectivement, ça devait être une image assez exceptionnelle. Est-ce que ce tourisme mémoriel, c'est quelque chose que vous essayez aussi de développer en dehors de ces périodes d'anniversaire tout au long de l'année ?
Ah bah écoutez, je pense que, on s'aperçoit que c'est peu connu. Le Sud-Manche, le tourisme mémoriel n'est peu connu et je dirais, pour faire un tout petit peu montrer l'ambition que nous avons, si on arrive à ce que les touristes connaissent très bien le Mont-Saint-Michel, évidemment, 3 millions de visiteurs, les plages du débarquement dans le nord, mais dans le sud, rien. Et si on arrivait à détourner un tout petit peu, je dirais, ce qui s'est passé, notre tourisme mémoriel dans le Sud-Manche, on aurait gagné. Dire que le quartier général d'Eisenhower était à Jullouville, dire que nous avons le cimetière américain de Saint-James, dire que nous avons le plus grand cimetière allemand à Luynes sur mer, avec des enfants, des gamins de 17 ans qui sont enterrés là. Tout ça, c'est émouvant. Et si on arrive à détourner 5% des visiteurs du Mont-Saint-Michel en même temps dans notre région, on aura gagné.
C'est vrai qu'il y a énormément d'étrangers qui viennent au Mont-Saint-Michel et vous êtes tout près, vous êtes dans la baie du Mont-Saint-Michel.
La mairie au Mont-Saint-Michel à vol d'oiseau, nous sommes à 17 km.
Ah voilà, donc c'est pas très loin. Pas très loin. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous ce samedi, Alain Bruyère. Je rappelle que vous êtes le maire de Jullouville, c'est juste à côté d'Avranches et toute cette région est en train de commémorer cet été les 75 ans de sa libération. Merci beaucoup, bon week-end.
Je vous en prie, merci bien, bon week-end.
Et dans un instant, nous poursuivons notre périple sur ces côtes de la Manche avec Justin Morin. A tout de suite.
Europe 1, vous êtes où cet été ?
Et oui, vous êtes bien sur Europe 1, belles vacances, prudence d'ailleurs si vous êtes sur la route. Vous êtes où cet été ? À la montagne ? Au bord de la mer ? Sébastien Krebs, lui, aujourd'hui, vous emmène visiter les côtes de la Manche. Vous êtes où cet été ? C'est jusqu'à 14h sur Europe 1.
Et nous nous dirigeons tout droit vers l'étape numéro 2 de notre voyage sur les côtes de la Manche cette semaine. Justin Morin, vous êtes toujours avec nous ?
Et toujours, j'écoute attentivement.
Et bien d'Avranches, où vous étiez, vous êtes parti à la recherche d'un trésor en Suède. C'était mardi matin. On écoute votre reportage, plutôt votre aventure.
Sébastien, j'ai pris la mer parce que sur Terre, on m'a parlé d'un trésor. Un trésor bleu qui se cache au large de Granville, à une dizaine de milles nautiques de la côte. Ça fait une quinzaine de kilomètres en langage terrien. Je vous emmène dans l'archipel des îles Chausset.
On entend le vent et les mouettes qui vous entourent sur ces îles Chausset. Qu'est-ce qu'on sait de ce fameux trésor ?
Alors sachez qu'il ne se découvre que lors des grandes marées, à peu près une fois par mois. À marée haute, il y a surtout la grande île de quelques dizaines d'hectares, une trentaine d'habitants. Mais à marée basse, on passe à plus de 2000 hectares, un continent éphémère de sable apparaît. L'archipel est alors envahi par les pêcheurs à pied à la recherche de coques, d'étrilles, mais surtout de ce trésor bleu, le bien nommé homard bleu de Chausset. Pour Europe 1, j'ai décidé de moi aussi me lancer à sa poursuite.
Ah oui, vous savez pêcher le homard peut-être.
Alors non, c'est pour ça que j'ai fait appel à Joël Mal. C'est le vice-président du comité des pêches amateurs de Granville. Il m'a donné rendez-vous sur son spot, la Pierre Auvra. En arrivant au port, on m'a dit que c'était tout au bout de l'archipel, à une heure de marche. Alors on y va, imaginez, vous marchez sur cette vaste étendue de sable, grand soleil, on dirait presque un désert s'il n'y avait pas ces îlots de roches sombres un peu partout. Tiens, et là, un premier pêcheur en train de chercher quelque chose sous un amas d'algues.
Alors, on va relever comme ça. Non, il n'y en a pas pour le moment. Alors, c'est un peu spécial, hein. Il faut s'y connaître un peu. Hein.
C'est-à-dire ?
Ben, il paraît qu'il faut des trous d'eau, il paraît qu'il faut voir une petite bulle qui monte. C'est ce qu'on m'a dit, mais j'ai rien vu de tout ça.
Alors c'est vrai, hein, que j'ai vite constaté quelque chose. Le niveau des pêcheurs est proportionnel à leur distance du port. Plus on s'en éloigne, mieux c'est. Sûrement pour ça que Joël est très très loin. Alors continuons d'avancer. Tiens là, un autre pêcheur en train de racler le sable avec un râteau.
Et regardez, voilà, une palourde.
Comment ça se passe ?
Bah, c'est moyen. Madame, elle veut manger des coques, donc il faut faire plaisir à madame, alors on pêche. Non, mais enfin, globalement, c'est bien quand même. On va pas se plaindre quand on voit tout ce qu'il y a autour de nous. Pour nous, c'est le bout du monde, quoi. Regardez ça. Dans une demi-heure, là, il y aura 4 ou 5 mètres d'eau ici. Ça va être la folie, vous allez voir ça.
Ah oui, ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, hein, c'est que la mer remonte très vite ici, avec le risque de se retrouver piégé sur un banc de sable, sur mon téléphone. Pas de réseau, donc là, je me dis que j'ai intérêt à vite trouver ce Joël Mal. Quand enfin, après presque 3 heures d'errement, miracle, le bateau que je recherche est échoué sur le sable, à son bord deux hommes, mais, pas de Joël.
Où il est, Jojo ?
Là, il doit être derrière le caillou, là.
Ok. Bon, je vais aller voir par là-bas. Et... On est d'accord ? Là, il n'y a plus possibilité de retourner à la grande île.
À pied ?
Ouais.
Bah, à pied, là, ça va être juste maintenant. Hein.
Ok, plus le choix. Je m'approche donc de ces rochers où sont censés se cacher Léomar et mon mentor. Tiens, le voilà, les pieds dans l'eau, en salopette de pêche, à la main, un long bâton avec un crochet au bout qu'il fait glisser sous les rochers pour que Léomar s'y accroche avec ses pinces. Bonjour ! Enfin !
Enfin retrouvé !
Alors, vous en êtes où, là ? Ça, il y a quelque chose ?
Oui, il y a quelque chose, mais ouais, des fois, il est plus malin que moi. Hein. Puis là, l'eau est trouble, c'est encore plus difficile. Vas-y, pince-moi. Là. Et voilà, le bébé. Alors, on va le mesurer.
C'est ce qui s'appelle arriver au bon moment. Un homard bleu marine sur le dos, presque turquoise par endroit, qu'il faut mesurer, oui, parce que toute la pêche ici est très réglementée. Là, il mesure une vingtaine de centimètres, un poil trop petit, sans rancune.
On va le remettre à l'eau.
Allez, bébé, elle va grandir.
Qu'est-ce que ça vous procure, vous, de chasser le homard comme ça ?
C'est le plaisir. C'est le plaisir de savoir qui c'est qui va gagner. Parce que des fois, c'est lui qui gagne. Hein. Moi, j'aime bien. Ouais. Ici, c'est magnifique. On attend la marée à chaque fois. C'est le paysage, et puis le silence. Enfin, il y a plein de choses qui sont que, bon, on est au paradis, là, des pêcheurs.
Et de retour, bredouille sur son bateau, il se fait un peu chambrer par ses copains. Moi aussi, pour m'être perdu et être arrivé avec 3 heures de retard, c'est vrai. On a attendu comme ça que la mer remonte et emporte le bateau pour rentrer à Granville. Sans homard, les îles Chausey ont dû estimer que je n'étais pas encore prêt pour ramener leur trésor.
Voilà pour votre reportage, Justin Morin. Dites-moi, ça a été l'aventure quand même cette journée.
Oui, vraiment, je m'attendais pas à ça, pour être honnête. J'avais pas pris de crème solaire, rien. J'ai fini la journée, j'étais un peu cramé. Mais bon, c'était pour la bonne cause.
Et vous aviez trouvé votre homard. On continue d'en parler de ces îles Chausey, site absolument exceptionnel. On est en ligne avec Pierre Scollan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes garde du littoral sur l'archipel des îles Chausey pour le syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche. J'imagine que ces îles, vous les connaissez comme votre poche. Ce sont des trésors à protéger, ces îles ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que Chausey est un archipel à préserver dans le sens où il présente un patrimoine naturel remarquable, avec des espèces remarquables, des habitats aussi naturels importants. Et on essaie de préserver ça tout au long de l'année.
Quel est votre rôle sur ces îles en tant que garde du littoral ?
Alors, les gardes du littoral, en fait, ce sont des agents qui ont pour mission de mettre en œuvre la gestion sur les terrains du conservatoire du littoral, donc sur l'archipel de Chausey. Ça concerne environ 6 hectares sur la partie terrestre de la Grande Île, qui sont propriétés du conservatoire du littoral. Mmh. Mais ça concerne également et surtout l'ensemble du domaine public maritime de l'archipel, donc à peu près 5000 hectares, qui est attribué par voie de convention au conservatoire du littoral. Donc c'est la raison de notre présence sur Chausey.
Pourquoi elles sont fragiles, ces îles ?
Alors ces îles, elles sont fragiles parce que justement, voilà, on a un patrimoine remarquable avec des enjeux de conservation importants. On peut citer des colonies d'oiseaux très importantes, d'oiseaux nicheuses hein, importantes. Par exemple, l'huîtrier pie, hein, qui est une des premières colonies françaises à Chausey, qu'on trouve à Chausey. On a également une très importante colonie d'huîtrier pie, hein, qui représente à peu près 1% des effectifs mondiaux. Donc c'est quand même fréquent hein, sur un petit territoire comme Chauzet. Mais c'est aussi toute une biodiversité et une mosaïque d'habitats marins qui fait en fait la richesse globale de cet archipel.
Et il faut la protéger aussi du tourisme qui peut aussi... Enfin, on sait que les touristes ne sont pas forcément toujours conscients des espaces à protéger, pas forcément volontairement, mais ils ne dégradent pas forcément volontairement, mais ne sont pas forcément toujours conscients de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est un petit peu l'enjeu général sur tout le littoral français. Et c'est aussi un peu la raison de la présence du conservatoire sur les côtes françaises. C'est que le littoral, c'est une zone qui concentre la fréquentation humaine et beaucoup d'usages différents. Le rôle du conservatoire et des gestionnaires et des gardes du littoral, vraiment sur le terrain, c'est aussi de sensibiliser le public à cette fragilité du milieu, leur donner des indications de bonnes pratiques, les informer sur les risques ou sur la sensibilité de certaines espèces, certains habitats.
Oui, vous dites les risques parce que c'est ce qu'on a aussi compris en écoutant le reportage de Justin, c'est qu'il faut quand même faire attention. Par exemple, la mer remonte extrêmement vite.
Alors c'est vrai qu'à Chauzet, effectivement, oui, il faut bien se renseigner sur les marées. Hein. On a une des plus grosses marées d'Europe avec 14 mètres de marnage au plus fort des grandes marées. Donc il y a des précautions à retenir. Hein. Déjà la première chose, c'est de consulter l'annuaire des marées avant d'aller à la pêche à pied, de connaître précisément l'heure de marée basse, mais également prévenir quelqu'un qu'on est parti à marée basse, avoir toujours un moyen de contact avec soi et commencer à remonter vers la plage à partir de l'heure de basse mer afin d'éviter de se faire piéger par la marée.
Oui, parce que pour qu'on comprenne bien, il y a beaucoup de bancs de sable assez larges. Et...
Oui, tout à fait. Donc à Chauzet, voilà, c'est un peu le cas un peu partout sur les côtes, mais à Chauzet, vraiment, la particularité, c'est qu'il y a un estran vraiment très, très important qui découvre à marée basse. Donc c'est vrai qu'on est tenté de voyager assez loin sur cet estran. Cet estran, en même temps, il est très fragmenté. Il y a beaucoup de roches et de cailloux. Je pense que Justin a pu le constater quand il est venu sur le site. Et donc, on peut perdre ses repères. Donc, quand on connaît mal l'archipel, on évite de s'aventurer trop loin. Et surtout, on garde l'œil sur sa montre pour ne pas risquer de se faire piéger par la marée quand elle va remonter. Quoi.
Oui, Justin, c'est un peu ce qui vous est arrivé. Vous avez eu du mal à les trouver, vos pêcheurs.
Ben oui, c'est exactement ça, et c'est juste ce que dit Pierre Scollant, c'est qu'on perd ses repères, c'est gigantesque. Je m'attendais pas à ça. C'est vraiment, cet estran est vraiment très très grand, et il y a ces roches, et au bout d'un moment, on peut vraiment se perdre parce que on ne voit plus que le sable, on a l'impression d'être un peu dans un désert, et c'est ça qui fait qu'à un moment, on ne sait plus vraiment où on est, quoi.
Paysage assez assez étonnant, assez incroyable. Merci beaucoup Pierre Scollant d'avoir été en ligne avec nous pour parler donc de ces îles. Chauzet, vous êtes le garde du littoral sur cet archipel pour le compte du syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche. Merci, bon week-end à vous.
Merci, bonne journée.
Et Justin Morin, vous restez avec nous parce que l'étape 3 arrive et elle est plutôt drôle, l'étape 3. Vous allez voir, à tout de suite.
Europe 1, vous êtes où cet été ?
C'est l'été sur Europe 1 et l'occasion de se balader dans nos belles régions de France. Ce samedi, découvrons avec Sébastien Krebs et Justin Morat les Côtes de la Manche. Vous êtes où cet été ? La suite, c'est maintenant.
Et nous poursuivons ce voyage sur les Côtes de la Manche ce samedi avec Justin Morin. Vous êtes toujours là, Justin ?
Toujours à l'écoute.
Toute la semaine, vous les avez arpentées, ces Côtes de la Manche. On était dans les îles Chauzet. Vous êtes revenu sur la terre ferme, sur la plage, pour un concours un peu particulier. Vous allez voir, il y a beaucoup d'ambiance. On réécoute votre reportage.
Je vous emmène sur la plage de Gouville-sur-Mer où je viens d'assister à une compétition sans merci, Sébastien. Je suis encore un peu sous le coup de l'émotion ce matin, je vous l'avoue. Chaque été, cette très longue et belle plage de sable normande est le théâtre d'un concours très, très attendu. Il regroupe les meilleurs bâtisseurs de France, si ce n'est du monde. Eh bien, en quasi-exclusivité pour Europe 1 avec l'hebdomadaire régional de la Manche Libre, j'y étais, le concours de château de sable amateur de Gouville-sur-Mer.
Ah oui, c'est un classique des vacances. On sait tous essayer un jour au château de sable. Mais là, j'imagine que c'est du gros niveau.
Écoutez, pour être honnête, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et puis, est arrivée une première équipe nommée les Coutainvillaises, formée à Coutainville, une plage un peu plus au sud. Romane, Thaïs et Pauline.
En château de sable, on va faire un mini Coutainville.
Ça ressemble à quoi, un mini Coutainville ?
C'est Coutainville, c'est les plages avec les cailloux espacés, les maisons derrière, le grand hôtel, le port, la pointe d'Agon, tout ça en sable.
Voilà, tout simplement, elles ont à peine 10 ans, elles vont construire une ville en moins d'une heure et demie.
Eh ben.
D'autant que Thaïs revient après une première mauvaise expérience en concours.
J'en ai fait un l'année dernière à Coutainville.
Et ça s'est passé comment ?
J'ai fini avant-dernière, mais bon.
T'avais fait quoi ?
Bah, un mini Coutainville, mais personne n'a reconnu, en fait, c'est ça le problème.
Alors cette année, les Coutainvillaises ont l'esprit de revanche. Elles ont investi dans des coachs personnels, leurs parents.
On a supervisé, on a bien confiance.
On a préparé.
Ouais, on a préparé.
On leur a dit, si vous voulez gagner, il faut préparer. Voilà. Donc normalement, ouais, c'est bien préparé, ouais, on va s'en sortir.
C'est ambitieux hein, comme projet.
Très ambitieux.
Très ambitieux.
On veut gagner cette année. On n'a pas accepté la place d'avant-dernière de
l'année
Thaïs
dernière,
et on est venu pour se
vécu.
Battre. Et aller jusqu'au bout.
Ouais. Si on participe, c'est pour gagner. Voilà.
Eh oui, bah oui, pourquoi ne pas participer pour gagner ? Effectivement, ça rigole pas ce concours.
Non, et c'est d'ailleurs déjà parti, parce qu'en face, il y a une autre famille, les locaux du très lourd, trois générations présentes entre Hector, le plus petit, et sa grand-mère. Ils sont une dizaine autour d'une grande montagne de sable.
On est les tuches, on va gagner !
Tout le monde s'y met. Nous avons un bâtisseur né, mon fils, Guillaume. Il a fait les plans et nous exécutons.
Et ben là, on est pas mal, les loulous. En fait, il ne faudrait pas trop creuser ici parce qu'on va avoir la route d'accès au château qui va se trouver par là. Donc on laisse rempli et on creuse autour.
Est-ce que c'est clair ?
Ouais, je crois.
Les signes sont bien donnés.
Attends, on fait ça là ?
À peu près clair. Alors ça ressemble beaucoup au Mont-Saint-Michel pour le moment. On va retourner voir les Coutainvillaises avec une construction assez élégante.
Des maisons toutes alignées derrière la digue. Il y a des maisons rondes, des maisons carrées, des maisons ovales. Et puis là, le grand pâté qu'on fait, c'est le grand hôtel à côté de la sucette chaude. Et devant la digue, il y a les plages. C'est mieux que l'année dernière.
Bon, bah très bien, je vous laisse bosser. Je reviens vous voir. Il y a une réunion de chantier, j'ai l'impression, là.
Ouais, il y a une réunion de chantier. Oui.
Qu'est-ce qui se passe ?
Où il est le maître d'œuvre ? Maître d'œuvre, SVP.
Les éléments de langage, très importants. Ça avance. On est très déçus. On pensait avoir la place pour faire un village, pour faire plein de choses. On va faire une tour.
Eh ben oui, pourquoi s'embarrasser après tout ? On a vraiment deux écoles qui s'affrontent, hein, c'est vrai. Le mini Coutainville avec son petit parking, sa délicate digue, ses bouées coquillages et l'ouvrage massif des tuches, une sorte de Mont-Saint-Michel avec ses douves profondes et ses coquillages sur les remparts. Alors après une heure et demie, les jeux sont faits, le jury arpente la dizaine de châteaux.
J'ai le stress là, hein. Je ne sais pas, c'est le début, mais je vais voir si je tiendrai jusqu'à la fin.
Et on la comprend, grosse pression. Quelques minutes plus tard, tous les concurrents sont appelés. C'est l'heure des résultats.
Est-ce que toutes les équipes sont là ?
De la 1 à la 12.
Bon,
on a défini qu'il y avait 8 châteaux de sable et 4 structures. Donc, le résultat des structures. Les premiers, les Coutainvillaises.
Bravo,
on est en premier en structure.
On est super contente.
Ah, c'était une super expérience.
Oui, une super deuxième expérience.
Oui, tu finis mieux que l'année dernière.
Oui, quand même un peu mieux.
Alors maintenant, résultat pour les châteaux de sable. Les gagnants des châteaux de sable, les tuches.
Ouais, bah, c'est super et j'ai gagné mon diplôme.
Un diplôme de bâtisseur distribué par la mairie à tous les participants. Finalement, l'organisation s'en est bien tirée. Deux gagnants pour deux catégories, ça évite les problèmes. Mais Tuche et Coutainvillaise se sont déjà donné rendez-vous l'année prochaine.
Voilà pour ce concours de Château de Sable. Justin Morin, je remarque que dès le départ, vous aviez choisi les bons chevaux. Hein. Bien joué.
Oui, j'avais senti le coup. J'avais senti le coup. Non, mais il y avait une dizaine d'équipes. Et bon, rapidement, les Tuches et les Coutainvillaises étaient plus nombreux que les autres équipes, en fait. Hein. Les Tuches, ils étaient une dizaine. Les Coutainvillaises étaient 6 ou 7. Forcément, ça aide à faire des constructions plus impressionnantes, mieux finies. Donc, bon,
et plus
voilà,
organisées aussi. Hein. Ils avaient l'air professionnels du genre.
Mais alors, ce que j'ai pas pu dire dans le reportage, c'est que le père de famille qui est chef de la famille Tuche, en l'occurrence, est vraiment architecte dans la vie. Donc, c'est peut-être ça aussi qui l'a aidé à construire ce Mont-Saint-Michel massif en sable. Je pense que ça l'a quand même bien aidé.
En tout cas, c'est sympa. On voit que sur la plage, personne ne se prend trop au sérieux et ça se fait dans une ambiance qui avait l'air en tout cas très agréable.
Oui, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça crée un dynamisme sur la plage, c'est-à-dire que les équipes étaient concentrées sur leur château de sable, sur leur structure, et il y avait des gens qui étaient sur la plage, qui venaient, qui s'arrêtaient et qui regardaient les châteaux, qui regardaient comment ça se passait. Ça crée vraiment une animation et ça, c'est vrai que c'était vraiment agréable aussi.
Et voilà, nous étions donc sur la plage de Gouville-sur-Mer et dans un instant, étape suivante, on va déguster une spécialité locale. Je ne vous en dis pas plus, restez avec nous, à tout de suite.
13h-14h.
Vous êtes où cet été ?
Moustique, tique, aïe, ça pique !
Le spray répulsif pur essentiel antipique est le bouclier protecteur 100% naturel et efficace contre tous les insectes piqueurs. La puissance de ses huiles essentielles repousse les moustiques les plus féroces, comme le moustique tigre, jusqu'à 7 heures.
Pur essentiel antipique, en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur.
Ludivine Vainqueur et la section de recherche de la gendarmerie enquêtent sur un tueur en série insaisissable, dont les traces ne permettent pas l'identification. Traque infernale, médecine légale, service secret. Laissez Maxime Chatham vous montrer le vrai visage du mal dans L'Appel du Néant aux éditions Pocket.
Cet été, pour deux livres Pocket achetés, un cadeau offert, voire modalité en magasin.
Sport 2000.
Sport 2000 de Rion ?
C'est Michel du Sport 2000 de Pierrelatte. Pour la rentrée, le survêtement Nike ou Adidas Junior Garçon est à 24,95€. Soit jusqu'à 50% de remise.
Ah, j'ai hâte d'être à Pierrelatte.
Jusqu'au 25 août, les offres rentrée des classes, ça match dans les magasins Sport 2000.
Sport 2000.
Ça match.
Par condition en magasin.
C'est l'été. On prend le temps sur Europe 1.
Omar, huîtres, château de sable, le village préféré des Français. Et oui, ça sent bon les vacances sur Europe 1. Jusqu'à 14h, vous écoutez, vous êtes tout cet été avec Sébastien Krebs et il est temps de passer à table.
Et nous continuons notre voyage. Aujourd'hui, nous sommes sur les côtes de la Manche avec Justin Morin qui est en ligne. Justin, vous étiez à Gouville-sur-Mer pour ce concours de château de sable. Où est-ce que vous êtes allé ensuite ? Vous êtes allé déguster les spécialités locales, si j'ai bien compris.
Ben oui, c'était l'heure. Hein. Après ces reportages où j'avais pas mangé, j'avais pas bu, il était temps de goûter aux spécialités locales.
On écoute votre reportage à Saint-Val-la-Hougue.
Je vous emmène faire un tour de tracteur.
Ah ben voilà, l'aventure.
Sauf que on ne va pas rouler en pleine campagne, ce serait trop simple, non. Je vous emmène au bord de la mer, sur un sable encore humide après le passage de la marée, entre Saint-Val-la-Hougue et l'île Tatiou. C'est ici que grandissent paisiblement les très célèbres huîtres de Saint-Va. C'est la prononciation des locaux, hein, c'est très important. Pour y aller, il faut traverser le village préféré des Français. Oui, Stéphane Bern est passé par là. Ses maisons de pêcheurs, ses rues étroites. Avec au volant du tracteur Guillaume, et derrière embarqué sur la remorque, sa sœur Stéphanie Lefebvre, tous les deux associés producteur de l'huître Tatiou.
Là, nous partons sur les parcs qui sont situés entre Tatiou et Saint-Va. On va aller faire notre petit tour du matin pour voir si tout le monde va bien. Le balai des tracteurs, c'est quotidien. C'est quelque chose dont les habitants sont habitués. Hein. Donc on aperçoit là-bas l'île de Tatiou. Quand on arrive le matin sur les parcs et qu'on a cette vue-là, il y a pire. Et voilà, on arrive. Toutes ces tables ostricoles qu'on aperçoit, ce sont des supports potentiels pour déposer les poches d'huîtres pour pouvoir faire notre élevage. On va faire du cross. Hein.
Et effectivement, ça se coud. Hein. On est entre les très longues lignes de tables sur lesquelles reposent des grands sacs remplis d'huîtres. Il y a l'eau, le sable, mais surtout beaucoup de rochers qui avant permettaient de délimiter les parcelles.
Nous sommes arrivés. Ça y est, c'est bon. On va pouvoir descendre les pieds dans l'eau.
On peut se rapprocher pour vous nous montriez comment c'est.
Voilà ce que ça peut donner. Donc là, on a les huîtres qu'on a rentrées tout début de printemps. On a l'équivalent ici, là, sur les 4 rangées, à peu près 2 millions d'unités.
Oui, c'est des mini-huîtres.
Voilà, c'est des têtes d'épingles. Et en fonction de l'évolution, plus on va avancer dans le temps, plus on va les travailler.
Travailler les huîtres, ça veut dire quoi, Justin ?
C'est la question, parce que les huîtres, ce ne sont pas des cailloux qu'on laisse grandir dans l'eau. Non, très régulièrement, il faut retourner les sacs pour éviter que les algues n'étouffent les huîtres. Et puis elles poussent vite, ces petites. Au bout d'un an, elles mesurent déjà plusieurs centimètres. C'est alors qu'elles sont ramenées à l'atelier pour qu'on les mette dans une nouvelle poche, avec moins de copines à l'intérieur. Comme ça, elles ont plus d'espace et peuvent continuer de grandir. Cette étape est répétée plusieurs fois jusqu'à leurs 4 ans, l'âge de la maturité, elles deviennent adultes. Et consommable.
Mais c'est ce travail qui va influer sur le goût de l'huître au final ?
Stéphanie et Guillaume, ils ont une comparaison qui est assez claire. Un parc d'huîtres, c'est un peu comme un terroir de vigne. Suivant les courants auxquels elles sont exposées, les huîtres vont manger des micro-algues différentes, être soumises à des températures différentes, et tout ça fait que leur goût et leur texture seront uniques.
Ah, je vois que vous avez bien écouté, Justin.
Et oui, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte ce que c'est que la vie d'une huître. Hein, par exemple, qu'elles peuvent se faire manger par une étoile de mer, capable de l'ouvrir avec ses bras. J'ai même appris que les huîtres sont hermaphrodites. Elles changent d'une année sur l'autre, c'est-à-dire qu'une huître qui rejette des ovules dans la mer cette année, produira des spermatozoïdes l'année prochaine. D'ailleurs, on est en pleine période de reproduction. C'est pour ça que si vous en mangez en ce moment, elles auront une texture un peu laiteuse.
Et donc, vous les avez goûtées ?
Et oui, j'ai fait mon métier jusqu'au bout, mais pour aller plus loin, j'ai aussi tendu le micro à des randonneurs qui ont fini leur journée à l'atelier de Stéphanie et Guillaume pour une petite dégustation.
Eh ben, c'est-à-dire qu'elles sont un petit peu croquantes, elles sont très goûteuses. Oui, là, elles sont bien iodées. Elles sont excellentes.
Et alors, il y a une légende qui dit qu'elles ont un petit goût de noisette. Est-ce que vous sentez ça?
Il y a un petit goût, mais vous savez, ça, c'est comme avec le Beaujolais nouveau. On sent la framboise, la banane et tout.
Vous n'avez pas la noisette, vous?
Non, non.
Et non, mais il faut aller le chercher, ce goût de noisette. Il y a une technique de base. Conseil de Stéphanie à tous les mangeuses et mangeurs d'huîtres.
Qui mâche le produit. Ce goût de noisette, j'ai envie de dire, si on ne mâche pas l'huître, on ne peut pas le trouver. Déjà, on ne le trouve pas à toutes les périodes de l'année. Et gober les huîtres, c'est juste pas possible. Et chez moi, c'est inconcevable. Alors des fois, je leur dis, mais ça vous viendrait l'idée de gober un steak? Et bien, c'est pareil.
On ne rigole pas avec les huîtres de Saint-Va qui se font même au barbecue. Figurez-vous, tout est possible avec un peu de camembert. 2 minutes sur le grill, ça suffit. Alors peut-être à éviter quand même au petit déjeuner.
Les huîtres de Saint-Va-la-Hougue avec Justin Morin. Vous les avez pas goûtées au barbecue comme ça, Justin?
Alors non, j'ai pas pu. Il y avait pas de barbecue dans l'atelier, mais j'en ai quand même goûté une. Et effectivement, il faut vraiment essayer. En ce moment, elles sont laiteuses. C'est très particulier, mais il y en a qui adorent et c'est agréable. Et elles ont vraiment beaucoup de goût, ces huîtres.
On est en ligne avec le maire de Saint-Va-la-Hougue. Bonjour, Jean.
Bonjour à vous. Bonjour à vous.
Merci d'être en ligne avec nous. Alors, on prononce bien Saint-Va, hein, pas
d'erreur. Complètement, c'est Saint-Va. Voilà, faut pas se contenter de cette orthographe qui peut des fois prêter à confusion. C'est bien Saint-Va-la-Hougue, oui.
Les huîtres, on les dit un peu laiteuses en ce moment. Vous voulez manger toute l'année?
Ah, tout à fait. C'est vrai que c'est pas la même texture l'hiver que l'été, mais comme votre collègue l'a très bien dit, ça dépend effectivement des goûts et puis voilà, mais elles sont tout à fait consommables et tout à fait intéressantes, quelle que soit la période de l'année.
Alors, votre village est dans la lumière pour ses huîtres, mais pas seulement, parce que vous avez été élu cette année village préféré des Français par l'émission qu'on connaît bien de Stéphane Bern. Qu'est-ce que ça a changé pour votre village?
Ah, c'est d'abord un grand plaisir et une grande reconnaissance, parce que lorsqu'on est sous les feux de la rampe, comme ça s'est passé au mois de juin dernier, c'est effectivement une grande satisfaction pour tout le monde et une grande fierté, parce que c'est vrai que d'être choisi, déjà au niveau Normandie, hein, parce que le concours d'abord a été d'abord d'être connu au niveau normand, et puis après de concourir au niveau national et d'avoir remporté de haute lutte ce titre, c'est vrai que c'est une fierté pour chacun des Saint-Vatais.
Ouais. Qu'est-ce qui a joué à votre avis? Qu'est-ce qui a séduit les Français?
Ben, je pense que nous avons la chance d'avoir un site extraordinaire en termes d'images et les images de Stéphane Bern au niveau de l'émission de France 3 a été vraiment extraordinaire. C'est que nous avons alors l'ostréiculture, hein, il y a eu des très belles images sur l'estran, et puis nous avons la chance d'avoir 2 tours inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO aussi depuis 2008, hein, qui sont vraiment intégrées dans un paysage qui n'est pas dénaturé, hein, qui est vraiment très très typique et très très sympathique à regarder et à vivre. Et c'est vrai que nous avons la chance, dans ce bout du Cotentin, à avoir, un site extraordinaire, quoi.
Est-ce que vous avez vu la différence depuis le passage de l'émission et depuis votre victoire? Est-ce que cette victoire et ce titre de village préféré des Français attirent beaucoup plus de touristes cette année?
C'est indéniable. Dès le lendemain, c'est un petit peu la force des médias. C'est vrai que nous avons eu l'office de tourisme a été assailli dès le lendemain matin.
Ouais.
Et c'est vrai que tous les gîtes, tous les hébergements qui restaient, qui n'étaient pas pourvus, ont été dans un laps de temps très rapide. Et puis, nous avons une kyrielle de camping-cars, des demandes très, très nombreuses, très variées, qui fait que... Alors, il y a plusieurs facteurs. On a eu une météo en plus très, très favorable.
En plus, hein, bien sûr.
On a évité la canicule, donc on a eu vraiment beaucoup de monde qui sont remontés en Normandie et en Bretagne, donc on a bénéficié de cet aspect-là. Et puis c'est vrai que beaucoup de gens sont venus pour découvrir. Hein. C'est vrai que les gens ont plutôt tendance à descendre vers le sud et à remonter, y compris dans le Cotentin. C'est pas toujours évident. Et on a eu vraiment on l'a quantifié à peu près entre 25-35%, quoi, à peu près
d'augmentation
supplémentaire. Oui, tout à fait.
Faites-nous en 2 mots un petit programme si on vient vous voir à Saint-Va-la-Hougue. Qu'est-ce qu'on fait dans notre journée?
Ah, vous savez, Saint-Va-la-Hougue, c'est une cité maritime. Donc, si vous aimez la mer, d'abord, vous êtes les bienvenus. Parce que sur 3 côtés sur 4, c'est la mer. Donc, c'est-à-dire que c'est un port de pêche, qui est alors, tout ce qui concerne l'activité, je dirais, de débarque, qui est tout à fait intéressante. Nous avons aussi un port de plaisance qui sait accueillir aussi tous les, les plaisanciers qui viennent en baie de Seine avant de passer donc la pointe du Cotentin, donc les deux rats, hein, qui sont un petit peu fameux et assez difficiles à passer. Et puis nous avons aussi une île qui est extraordinaire, qui est un petit peu un bijou, qui est une île qui se trouve à peu près à 2 km du port, et qui a un musée maritime, on peut observer aussi les oiseaux, un centre ornithologique très très important, et puis cette fameuse tour inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc des choses tout à fait intéressantes à voir, et le passage se fait avec un amphibie qui à la fois peut marcher sur l'eau ou sur l'estran. Vous savez, c'est un bateau à roues, donc qui sont aussi une image.
Quelle que soit la marée, du coup, il peut passer.
Voilà, tout à fait. Et puis nous avons la chance d'avoir donc ce bassin ostréicole. Lorsqu'on aime les huîtres, vous savez, sans être chauvin, c'est l'huître qui est la meilleure non seulement en Normandie, mais même en France. Elle est sur les bonnes tables à Paris. Et donc c'est quelque chose qui, quand on y goûte, c'est un goût de noisette qui est tout à fait particulier. Et tous ceux qui aiment le goût de l'huître, eh bien, seront comblés. Et puis nous avons bien sûr le côté touristique. Dès que vous voulez vous balader un petit peu, en tout cas participer un petit peu à cette appréhension de l'estran et puis des grands paysages maritimes, vous êtes ici comblés, quoi.
Et on va les goûter, oui, on va les goûter ces huîtres. Alors, ce que vous avez dit fera forcément débat avec face aux fans des huîtres d'Oléron ou du bassin d'Arcachon. Mais en tout cas, il faut les goûter, ces huîtres de Saint-Val-la-Hougue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi, Jean Le Petit. Vous êtes le maire de Saint-Val-la-Hougue, village préféré des Français. Bravo pour ce titre. Bon week-end à vous.
Bon week-end à vous aussi. Merci bien encore.
Merci à vous. Et on continue notre voyage par la dernière étape dans un instant. Elle sera alcoolisée. A tout de suite.
Tous les samedis 13h-14h, vous êtes où cet été ?
Bon début d'après-midi sur Europe 1. Vous êtes où cet été ? Au bord de la mer, sur les côtes de la Manche. Dernière étape avec Sébastien Krebs.
Et nous en arrivons à la toute dernière étape de notre voyage le long des côtes de la Manche, sur la presqu'île du Cotentin aussi. Avec Justin Morin qui a parcouru cette région tout au long de la semaine. Vous êtes toujours là, Justin ?
Je suis toujours là, oui.
Après avoir été sacré meilleur bâtisseur de Château de Sable, vous avez dégusté les huîtres de Saint-Val-la-Hougue et vous aviez besoin d'un petit verre pour terminer.
Mais oui, forcément. Et puis les pommes de Normandie, on y vient forcément avec le Calvados.
Avec le Calvados, on réécoute votre reportage.
Et alors moi, c'est Roland Venice, j'ai 82 ans. Je me suis installé en 1961, ici, à la ferme, oui. Et nous, on s'est mis à faire du calvados.
Bon, je vous accompagne, je vous suis.
On va voir ça. Alors ça, c'est la cave à calvados. Tous ces fûts-là sont pleins de calvados, hein, de différentes années. 2016, 2012, 2014, toutes les années, quoi. Alors celui-là, c'est le fût qu'on l'a vidé et il va être rempli la semaine prochaine.
Ça sent, il y a des odeurs hein, quand même ici.
Ah ben, les gens quand ils rentrent dans la cave, ils disent « Ah, ça sent bon !» Enfin là, il y a
et
deux gens...
Et c'est vrai, des odeurs lointaines de pommes mêlées au bois de chêne, c'est ce qui caractérise la ferme de la Butte dans le village de la Meurdraquière, à peine 170 habitants, dont Roland qui regarde au-dessus de ses lunettes, qui rigole beaucoup et qui n'est pas peu fier de nous montrer ses impressionnants tonneaux. Ça fait plus de 50 ans qu'il produit du calva à partir de la distillation du cidre dans un alambic chauffé au bois. Son père, installé en 1935, le faisait aussi. Mais voilà, Roland s'essouffle de plus en plus quand il monte voir les pommes de son verger. Alors, il a décidé d'arrêter.
Il faut faire une raison, hein. Il faut arrêter quand on est encore valide.
C'est le cas, ça se voit. Et alors, votre père, c'était pas les mêmes règles, j'imagine ?
Ah ben non, c'était pas les mêmes pommes, mais c'était sensiblement pareil. Hein.
Il était plus fort quand même ou pas à la fin ?
Ah ben c'est-à-dire qu'il ne diminuait pas. Il consommait à 65, quoi. Parce que le calvados, dans le temps, il mettait dans le café. Ça améliorait le mauvais café. Le facteur venait, la bouteille de calvados sur la table. Le laitier passé, c'était pareil.
Et bien le facteur, après, il n'avait pas du mal à faire sa tournée.
Ah, il était habitué, le facteur. Hein. Il finissait quand même. On avait un salarié qui arrivait le matin, il faisait sa collation, son café, sa goutte. Le midi et le soir, pareil.
Il y a une légende qui dit, parce que moi je suis normand aussi, que les enfants en Normandie, ils sont élevés avec du calva dans le biberon.
C'est des conneries. Non, moi j'ai jamais vu ça. On mettait du calva dans la dent creuse quand on avait des races dedans, c'est tout.
Ah oui, bah pourquoi pas, effectivement. Là on est à une autre époque, non ?
Ouais, exactement. Mais en fait, écoutez Roland, c'est retracer l'histoire du calva. Son père, lui, n'avait pas le droit de le vendre. La loi l'autorisait juste à en produire pour une consommation familiale, même si dans les faits, vous l'avez compris, hein, tous ceux qui passaient par la ferme en profitaient. Et puis, en 1974, enfin, Valéry Giscard d'Estaing, élu président de la République, autorise la vente, avec des taxes spécifiques pour l'État, bien sûr. Roland, avec les stocks de son père prêts dans la cave, peut lancer l'entreprise qui n'a cessé de grandir. De quelques centaines de litres de calva produits au départ, on en est à plus de 2000 aujourd'hui. Et donc il a trouvé un successeur d'ailleurs, il s'appelle Louis de Thésy, au départ titulaire d'un diplôme dans la finance agricole. Aujourd'hui à 24 ans, pas mal d'idées pour l'avenir, à commencer par négocier le passage en bio. Ça fait un an qu'il est revenu dans la région pour suivre un contrat de parrainage sur la ferme et apprendre le métier.
J'ai la chance d'avoir retrouvé quelqu'un qui souhaite me transmettre son affaire. C'est pas juste une vente, c'est vraiment une transmission de tout un savoir-faire, de toute une clientèle aussi.
Et vous vous sentez comment, Roland, à un mois de passer le flambeau?
Parfaitement bien. Cette année, c'est lui qui va ramasser les pommes. Il est grand. Maintenant, il peut marcher tout seul.
Bon, vous me voyez venir, Sébastien. On parle de calva, il y a bien un moment où il va falloir tenter. Et ça tombe bien parce que depuis deux jours, c'est la fête chez Roland. Toute la famille est là. Encore ce soir, c'est banquet et guinguettes. Alors, j'ai profité des préparatifs pour tremper mes lèvres dans un verre.
Celui-là, il a 10 ans d'âge. Il a une couleur qui est déjà plus foncée. Il est plus rond, moins d'éther. Il faut le goûter.
Vous tenez le micro, je goûte. Alors, on le sent. Ça sent bon déjà.
Oui.
Oui, oui, on a bien la pomme.
Ouais, puis là, il a une température qui est superbe. Avez-vous goûté à la sortie d'alambic?
C'est fort, non, à la sortie d'alambic?
Ah ben, ça fait 70 degrés. Et vous avez là le parfum de la pomme, c'est sublime.
Je veux bien essayer, alors.
Bien, mais... allez voir. Ça déborde. Alors, autrefois, c'était de l'eau de vie. Il faut goûter.
Bon, eh ben, je vous laisse goûter en premier.
Oui, ben, écoutez, ça y est, j'ai déjà goûté. On boit dans le même verre. Hein.
Oui, je vous laisse tenir le micro. Ouf, ouais, ça, déjà, le nez, ça remonte dans le nez, hein. Ah oui, quand même. Ça brûle quand même un peu, hein.
Ah, ça fait 70 degrés, alors.
Bon.
Ça prend feu, hein. Faut pas souffler la bougie quand on a fait comme ça. Hein.
Voilà, Sébastien. Alors,
vous êtes toujours candidat pour tout goûter. Voilà.
Comme les huîtrières, vraiment, je conseille pas trop au petit déjeuner. Si vous voulez goûter, vous aussi, vous allez à la ferme de la Butte ce soir. Roland vous attend. Et surtout, Sébastien, vous n'oublierez pas de lui souhaiter une très belle et heureuse retraite bien méritée.
Ah oui, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Merci à son accueil formidable. En tout cas, Roland Vénis, 82 ans, il est un vrai passionné, Justin.
Oui, ah bah c'est complètement ça. Et puis, on dit souvent que les Normands sont un peu taiseux, qu'ils ont du mal à ouvrir leurs portes. Là, vraiment, c'était tout l'inverse. Je suis arrivé, il avait le sourire, il était heureux de me recevoir, de me raconter son histoire, de me raconter son père. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y avait toute la famille, les enfants, les petits-enfants. Et tous, ils m'ont dit, ils ont demandé à Roland, tu as bien parlé de Valéry Giscard d'Estaing. Hein. Valéry Giscard d'Estaing qui a autorisé la vente du calva. Ça a été vraiment voilà, l'élément déclencheur et il fallait toute la famille voulait remercier Valéry Giscard d'Estaing d'avoir autorisé le commerce du calva.
Alors là, vous avez quand même goûté un truc, 70 degrés, ouais. Ça avait l'air de brûler un peu.
Ah oui, non. Puis alors, en plus, donc il faut imaginer cet alambic en cuivre d'où sort l'alcool. En fait, l'alambic, c'est ce qui permet de faire la distillation de l'alcool. Ça chauffe l'alcool qui est dans le cidre et l'alcool. Enfin bon, c'est un peu technique, mais s'évapore à une température plus basse que l'eau. Donc c'est comme ça en fait qu'on récupère l'alcool et il sort par un petit robinet. Et alors là, c'est pas du calva, donc il est pas encore un peu brun. Là, c'est vraiment comme de l'eau. Hein. C'est pour ça qu'on dit de l'eau de vie. Donc c'est transparent et on sent que ça va chauffer déjà rien que quand on sent. Ça pique les naseaux, ça pique le nez. Et bon, ben après, voilà, il fallait se lancer, j'ai essayé.
Et
j'ai
on
essayé.
Le sent descendre dans l'œsophage, j'imagine.
Ah oui. Oh là là, oui.
70
oui,
degrés, oui, oui. On sent encore le goût de la pomme ou
Alors, je pense que j'ai pas le palais assez, assez développé ou assez habitué, en tout cas, à ces alcools-là. Moi, j'ai pas senti grand-chose. Mais Roland, lui, il dit que, voilà, c'est ce qu'il dit dans le reportage. Il dit, c'est sublime, on sent vraiment toutes les saveurs dans cette eau de vie à 70 degrés. Bon, moi, j'ai un peu de mal quand même.
Voilà, et puis on retiendra sa recette pour sauver un mauvais café. Petite goutte de calva. Hop, tout
voilà,
de suite,
goutte.
Ça passe mieux. Merci à lui, en tout cas, pour son accueil. Et merci à vous, Justin Morin, pour ce périple sur les côtes de la Manche tout au long de cette semaine. On vous retrouve lundi et toute la semaine à 7h10 pour de nouvelles aventures dans une autre région, sans dévoiler ce qu'on entendra la semaine à venir. Dans quelle région vous allez?
Alors on va aller un peu plus dans le sud, on va quitter les bords de mer, on va aller plutôt dans les terres du côté de la Drôme et de l'Ardèche.
Ah bah très bien, on va complètement changer d'ambiance lundi à 7h10 et tous les jours de la semaine, et bien sûr pour la version longue samedi prochain à partir de 13h. On en arrive à la fin de ce périple. Merci de l'avoir suivi avec nous. Je vous souhaite une très belle journée sur Europe 1.